Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour les nouvelles chroniques du bonheur. Comme chaque semaine confinée, je vais parcourir nos pistes de bonheur, arpenter les chemins qui mènent à la sérénité, colorer de positif l'atmosphère ambiante, parsemée d'espoir et de confiance, cette période inédite. Et pour cette émission numéro 3, je vais continuer à aborder le thème des changements avec les changements de type 1 et de type 2. Aussi, je vais m'appuyer sur les écrits de Françoise Kourilski, de Paul Watzlawick et de Grégory Batson, mes sources en termes de changement de type 1 et de type 2. Et donc le changement du type 1, c'est ce que nous appelons l'homéostasie. C'est celui qui permet au système de maintenir son homéostasie, c'est-à-dire son équilibre. La modification s'opère simplement au niveau des éléments du système. L'homéostasie d'un système réside dans son aptitude à exercer des phénomènes autocorrecteurs sur les éléments internes et externes qui menaceraient son équilibre. La boutade, plus ça change et plus c'est la même chose, qu'on entend fréquemment dans les cafés ou dans les cantines au sujet des mesures prises par la direction d'une entreprise ou du gouvernement, traduit parfaitement combien les changements opérés n'aboutissent qu'à des solutions de niveau 1. Solutions qui précisément contribuent à enclencher des mécanismes régulateurs, dits homéostatiques, car ils maintiennent le système en son état. Ainsi, nous-mêmes tentons-nous le plus souvent, sans le savoir, de changer les choses en aboutissant toujours à la même chose. Cependant, ce changement 1, par rétroaction, est insuffisant dans certains cas. En effet, lorsqu'un système humain ne parvient plus à réguler ses échanges par ses mesures habituelles d'autocorrection et d'ajustement, et lorsque les solutions de bon sens maintiennent les problèmes ou en créent d'autres, il entre alors en crise. Cela signifie qu'au sein du système, des changements d'un autre niveau, le niveau 2, s'imposent, et que s'ils ne sont pas introduits, le système tombe malade. Le changement de type 2, c'est donc l'évolution. Le changement de type 2 se caractérise par le fait que c'est le système lui-même qui se modifie ou qui est modifié. Pour reprendre des métaphores empruntées à Paul Watzlawick, le changement 1 s'apparente à l'action du thermostat qui régule la température en fonction des variables thermiques, ou encore celle de l'accélérateur de la voiture qui permet d'aller plus vite, mais en conservant le même régime. Alors que le changement 2 correspond à une intervention sur le levier de vitesse qui, modifiant alors le régime de la voiture, la fera passer à un niveau supérieur de puissance. Ainsi, face à une côte très abrupte, changement de contexte. Si le conducteur ne faisait qu'accélérer un peu plus, il n'effectuerait qu'un changement de niveau 1. Solution qui amplifierait le problème, car sa voiture, imaginons une petite cylindrée, un peu plus à court de puissance, avancerait de plus en plus difficilement et finirait sans doute par caler. Dans cet exemple, la solution consistant à changer de vitesse pour modifier le régime du moteur correspond précisément à un changement de niveau 2. L'accès au changement de niveau 2 dans un système humain nécessite que les règles qui le régissent subissent des transformations. Et cette modification des règles d'un système humain relève, comme nous le verrons bientôt, d'une reconstruction de la réalité, d'un changement de prémisse, voire d'hypothèse, de base ou de présupposé. Ce changement de type 2, sur lequel l'équipe de Palo Alto s'est particulièrement mobilisée, est celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Vouloir changer ne suffit pas. Il est souvent plus simple de faire du toujours plus que du toujours mieux. En effet, le changement quantitatif relève surtout de solutions matérielles, alors que le changement qualitatif, lui, relève d'un changement immatériel. Il résulte d'un changement de représentation dont découleront de nouveaux modes d'interaction. Un changement qualitatif ou culturel ne se décrète pas. Il est de l'ordre de l'informel, d'un changement de regard sur les choses. Il s'opère aussi, d'autant mieux qu'il s'effectue inconsciemment, sans effort de volonté, un peu comme le changement de rythme respiratoire qui se produisent spontanément, à notre insu. Le fait de décréter un changement d'ordre culturel déclenche généralement un peu plus d'immobilisme dans les systèmes humains. Ressentant le diktat comme une non-acceptation de leur identité, ces systèmes le vivent comme une agression et réagissent en opposant toute l'énergie de leur résistance. Rien n'illustre mieux la difficulté à générer un changement qualitatif que cette fameuse phrase attribuée à Edgar Faure lors de la mise en place de sa réforme de l'éducation nationale. En décrétant le changement, dit-il, l'immobilisme s'est mis en marche et je ne sais plus comment l'arrêter. De la même façon, un individu qui se sent remis en cause mobilisera ses résistances pour se défendre. Sur un plan plus général, nous constatons aussi que les institutions qui ont le plus fait l'objet et les frais de tentatives de réforme maladroitement engagées s'avèrent précisément celles qui ont le plus de mal à évoluer. Alors qu'allons-nous vivre ? Un changement de type 1 ou un changement de type 2 ? La crise sanitaire actuelle fait apparaître sur les réseaux sociaux et dans les médias, et puis dans nos conversations bien sûr, de grandes tendances de pensée qui font justement référence aux changements de type 1 et 2, que je viens de rappeler. Certains imaginent que grâce à cette crise, le monde va enfin effectuer un grand changement de type 2. Nous allons devenir plus solidaires grâce à la crise financière et la remise en cause du capitalisme financier. Nous allons revenir à un capitalisme plus sobre et plus familial. Les grands patrons partageront leurs revenus avec leurs employés. Il y aura moins de distribution de dividendes. Nous allons revenir à une sobriété heureuse, chère au concept de Pierre Rabhi, où nous dépenserons et nous consommerons moins. Nous avons découvert pendant le confinement qu'on pouvait aller au musée, au théâtre, assister à des concerts virtuellement. Nous avons redécouvert le temps de prendre plus de temps, puisque nous ne nous déplaçons plus. Nous voyagerons moins à travers le monde, nous allons relocaliser notre industrie et nous consommerons beaucoup plus du « made in France ». Fini les fruits et les légumes des antipodes, nous allons revenir à la consommation de fruits et de légumes de saison et produits localement. Il s'agit donc d'un changement de type 2. Mais un deuxième courant de pensée est bien plus pessimiste. Des économistes disent qu'il faut relancer l'économie, car sinon des entreprises vont faire faillite et que cela créera des millions de chômeurs et de la misère supplémentaire. Les entreprises réclament déjà la suspension de certaines lois du Code du travail afin que nous puissions travailler plus ou ne pas prendre tous nos congés. Ils nous expliquent que, comme après la crise de 2008, il y aura un rebond de la consommation avec une augmentation de la pollution et nous sommes ici dans le retour du monde d'avant, c'est-à-dire un changement de type 1 dû à la crise sanitaire. Alors que désirez-vous ? Quel changement avez-vous envie de vivre? Quelles émotions avez-vous envie aussi de ressentir et de développer à travers cette situation inouïe, cette situation imprévisible, cette situation inédite que nous vivons tous? Nous parlerons la prochaine fois des émotions, nous parlerons aussi des rituels que nous pouvons mettre en place, nous parlerons de nos ressources pour faire face à ce que nous vivons et rester positif dans cette parenthèse de vie. Et comme lors des chroniques du bonheur de 2019, j'ai envie de partager un petit conte, une histoire zen qui s'appelle « Le miroir dans le coffre ». Parce que très souvent, nous pensons détenir la vérité, et pourtant, dans ce conte traditionnel zen, la vérité a autant de visages qu'il y a de protagonistes. Alors, méfiance sur nos a priori, surtout quand ils croisent nos peurs. Revenant d'un voyage, un homme pieux achète en ville un miroir, objet inconnu pour lui. Il croit y reconnaître le visage de son père et l'emporte ravi chez lui. Il le cache dans un coffre sans rien dire à son épouse. Quand il se sent triste, il va de temps en temps voir son père dans le miroir. Sa femme l'épie et voit qu'il ouvre un coffre et reste longtemps penché au-dessus. Une fois le mari parti, elle ouvre le coffre à son tour et regarde le miroir. Et y voit une belle jeune femme. Elle devient très jalouse et fait une scène à son mari. Mais lui répond que ce n'est que son père et qu'il n'y a pas de mal à ça. Par bonheur, passe une nonne. Elle veut régler le conflit et se fait montrer l'objet du délit. Elle déclare peu après à la femme « Tu n'as aucun souci à te faire. Cette femme est nonne et ton mari ne peut rien lui faire. » C'était Jean-Marie Marcos pour les nouvelles chroniques du bonheur. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Il s'agit de Russians, de Sting. Un petit clin d'œil à Sophie Thiam que j'ai eu le bonheur d'inviter avant le confinement sur Radio Axe. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 21h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux. Russians love their children too. How can